Vous êtes en couple, vous préparez votre mariage ou vous venez de vous marier? Dans tous les cas, c'est l'aventure, nous en savons quelque chose. Mariés depuis 4 ans, mais amoureux depuis bien avant, nous vivons chaque jour cette aventure avec une grosse dose de joie, beaucoup d'excitation et de temps en temps une pincée d'appréhension. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et avec le père Pierre-Marie Castagnos, prêtre chez les serviteurs de Jésus et Marie, auteur du livre « Se marier et durer » aux éditions Salvator et grand spécialiste des relations de couple, nous sommes ravis de vous inviter à suivre ce petit parcours de préparation au mariage en 7 épisodes.
Dans ce 5e épisode, retour sur terre, nous allons parler du quotidien du couple. Qu'est-ce qui, au quotidien, peut contribuer à aider ou au contraire à abîmer un couple? Bonne écoute. Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie.
Alors, dans ce 5e épisode du podcast « Se marier et durer », nous allons aborder la question du quotidien du couple et tout ce qui peut faire qu'au quotidien, un couple continue à grandir et à s'aimer ou au contraire peut s'éloigner un petit peu. Mmh. Alors, on va aborder plusieurs thématiques, l'argent, la vie professionnelle, la place des belles familles et des amis et la question des tâches ménagères épineuses.
Donc, tout d'abord, sur le vaste sujet de l'argent, comment on fait, en fait pour s'aligner sur la gestion de l'argent lorsqu'on constate que l'éducation en fait, par rapport à la gestion de l'argent faire souvent.
Alors, c'est vrai que cette question, elle est, je vais dire, omniprésente dans la vie d'un couple, mais dans la vie de tout le monde en général, parce que bon, on a besoin pour le quotidien d'argent, etc. D'abord, vous rappelez dans un des podcasts, on a dit de faire la relecture un peu de l'éducation qu'on a eue, ce travail sur soi-même. Comment ça peut être intéressant de voir comment chacun, et ça, je suis attentif dans la préparation au mariage, comment chacun a vécu ce rapport à l'argent dans sa famille, parce que il y a des familles où on n'en parle pas. C'est vraiment un peu tabou, question tabou. Des familles, on en parle trop. Des familles aussi, il y a eu des difficultés financières. Des familles où, au contraire, une grande aisance. Voilà, donc selon le background que chacun a dans sa propre famille, c'est aussi quelque chose qui se transférera dans la vie de couple. La question de l'argent, moi, je vois peut-être... premièrement, se poser la question... Quel est le niveau de vie que l'on souhaite? C'est une question que je pose aux fiancés. Avec quel niveau de vie vous vous voyez? Est-ce que le niveau de vie que vous avez actuellement vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que... Bon, c'est rare qu'il y en ait qui disent que ce soit trop, mais bon, ça peut arriver. Est-ce que vous estimez qu'avec l'avenue des enfants, c'est pas assez, etc., etc. Donc, la question du niveau de vie, évidemment, l'impact que ça a sur la vie professionnelle, parce que l'argent vient de la vie professionnelle. Mais une chose qui est importante, c'est que rapidement, peut-être pas tout de suite, ça dépend, parce qu'il y a des couples qui se marient très jeunes en étant étudiants, que rapidement, le couple soit indépendant financièrement. Ça me paraît une base, de façon à ne pas dépendre des parents. Alors, rapidement, je pense par exemple à des jeunes étudiants qui seraient encore en formation, etc. Bon, il faut peut-être attendre un an ou deux ans, mais en tout cas que dans leur perspective, ils aient tout de suite l'indépendance financière de leur couple. Ça me paraît tout à fait important. Et puis ensuite, la manière de gérer l'argent au quotidien, c'est déjà au niveau de la gestion des comptes bancaires. Si on rentre dans les choses concrètes, il y a trois manières de gérer les comptes bancaires. Soit il y en a un qui dit « nous n'avons qu'un seul compte, un compte joint pour le couple, on met tout ensemble ». Un autre qui dit « nous avons chacun notre compte et on fait à part égale pour les dépenses du quotidien ou les dépenses extraordinaires pour les voyages, etc. » Et il y en a qui dit « on a chacun notre compte plus un compte joint ». La plupart du temps, c'est la troisième manière qui prévaut. Oui, alors, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire « qu'est-ce que dit chaque manière de s'organiser ? Qu'est-ce que ça dit du couple ?» Dans la manière qui dit « on n'a qu'un seul compte et on fait tout ensemble », sur ce compte, il y a l'idée que ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi. On ne fait pas de différence tant au niveau des salaires qu'au niveau du patrimoine. Dans le couple où il y a chacun son compte individuel et pas de compte joint, il se voit comme un couple très autonome. Du coup, leur manière d'être aussi vont être assez indépendantes l'une de l'autre dans leur manière de fonctionner. Et dans la troisième formule, qui est le deux comptes individuels plus un compte joint, ben voilà, il y a un peu un mix des deux qui fait qu'il y a une partie qui dépend de chacun. Comme par exemple, si j'offre un cadeau à mon conjoint, ben, je n'ai pas forcément envie qu'il sache le prix que j'ai pu mettre pour lui offrir un cadeau, etc. etc. Voilà. Donc du coup, ça dit chaque manière de faire dit et avec ses inconvénients, parce que par exemple, n'avoir qu'un seul compte, on dit ce qui est à toi est à moi, etc. Mais à un moment donné, on voudra qu'il y ait des choses qui ne soient qu'à nous et pas forcément à l'autre. Par exemple, des choses qu'on a reçues en héritage, des choses qu'on a. Et du coup, dans la manière de l'utiliser, comment est-ce que je vais faire pour utiliser cet argent, sachant que j'ai peut-être mes propres vues, ou alors, justement, par rapport, on parlait des belles familles, etc., par rapport à ma famille, où ma famille est en difficulté, je veux la soutenir. Bon, c'est un cas particulier, mais qui peut se poser pour un certain nombre de personnes qui ont des familles à l'étranger. Qui, par exemple, ont des familles en Afrique, en Asie, etc., dans des pays beaucoup plus pauvres, et se sentent dans l'obligation de soutenir leur famille. Comment chacun va pouvoir, s'il n'y a qu'un compte, dire ben, « je vais prendre de notre argent commun pour soutenir ma famille qui est dans un pays africain, par exemple, ou qui est en difficulté, même en France. » Voilà. Donc, c'est pas sans difficulté. Qu'est-ce que dit chaque organisation de la manière dont se voit le couple ? Et il peut y avoir des limites. On dit, tout ce qui est à toi est à moi, etc. Et inversement, à un moment donné, on peut dire ben non, là, non. Il me semble que ça, c'est pas à nous. C'est, quand je dis et c'est moi, c'est à moi. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, dans le fait de se voir très indépendant, ça peut tourner, j'allais dire, à la colocation, entre guillemets, mais ça peut tourner à une certaine indépendance d'esprit et voire éloignement, hein, donc voire vie parallèle. Et puis, dans la troisième forme, donc, je trouve que c'est un mix des deux, etc., qui est assez, qui est vraiment, parmi les couples, ce que je vois, ce qui est le plus employé. Maintenant, la question de l'argent, c'est aussi la question du patrimoine. Et donc, du coup, la question du contrat de mariage. Du contrat de mariage, qui est une question qui doit être abordée dans la préparation au mariage. La plupart des couples que j'accompagne font un contrat de mariage. Et c'est vrai que je conseille de faire un contrat de mariage, c'est-à-dire de séparation de biens, quand, dans plusieurs cas, premièrement, quand l'un ou l'autre envisage une activité libérale ou une entreprise, etc., bon, quand il y a une grosse disparité de fortune et d'aisance, et quand il y a des biens de famille aussi, il y a des biens de famille dans lesquels l'autre est déjà partie prenante, par exemple, pourquoi une SCI, et du coup, sa famille lui a donné des parts, etc. Du coup, de façon à ne pas mélanger l'action du conjoint dans ses biens de famille. Voilà, c'est un peu pour séparer les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre ce que la volonté du conjoint, etc. Et puis aussi, quand je disais une différence de fortune, c'est vrai de pas d'être très clair dans son cœur que c'est pas pour la fortune de l'autre que j'épouse l'autre, hein. Donc du coup voilà, donc c'est mais la séparation de biens n'a jamais fait divorcer personne, parce que personne, les gens disent ah non, pas de séparation de biens, il y en a qui sont à fond compte pensant que ça va les non, de même un testament n'a jamais fait mourir un contrat de mariage, donc mais là-dessus aussi je pense que l'Église n'a pas de parole particulière, elle n'a pas de point de vue particulier, elle laisse ça évidemment au discernement des conjoints, donc c'est quelque chose qui voilà qui se voit de cette manière-là.
Et sur la gestion de l'argent, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un cas de figure où pendant des fiançailles, du coup, le couple pensait être d'accord sur leur manière de gérer l'argent et qui sont revenus vous voir, je ne sais pas, deux, trois années plus tard, ou même avant, et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout alignés ?
Ça a pu arriver, surtout quand arrivent les enfants. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Il y en a un qui veut mettre pendant plus d'argent dans l'éducation. L'argent renvoie aussi à notre manière d'appréhender le monde. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui sont anxieuses et donc qui ont besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, ça se traduira par une besoin de sécurité matérielle. Et donc, auront besoin de mettre absolument à deux côtés pour l'éducation des enfants, alors que la jeune femme vient juste de tomber enceinte, mais déjà, elle se projette parce qu'il y a une anxiété qui arrive, parce que peut-être dans leur famille, on a manqué d'argent, ou tout simplement, elle est anxieuse de nature. Voilà, donc, du coup, ces questions-là, ça a pu arriver, justement, avec l'avenue des enfants. Ça a pu arriver aussi quand il y a une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise familiale ou d'exploitation agricole familiale. Alors, on va parler des belles familles, parce que ça veut dire aussi une mise de fonds. Ça veut dire parfois sacrifier un peu son train de vie ou beaucoup, ou mettre le couple dans une certaine insécurité financière, peut-être temporaire. Mais ce n'est pas sans incidence sur le couple, quoi.
Oui. On entend bien avec ce que vous dites que la question de l'argent est intimement liée, évidemment, à celle de la vie professionnelle. Non seulement pour les revenus, mais évidemment aussi pour les cas de figure que vous avez mentionnés, lorsqu'on prend des risques professionnels qui peuvent avoir une incidence sur le confort matériel. On voulait aborder avec vous deux cas de figure différents de gestion de la vie professionnelle. Comment gérer sa vie professionnelle pour qu'elle n'empiète pas trop sur le couple? Vous avez dit dans l'épisode consacré à la communication dans le couple que la porosité vie pro-vie perso peut être très dangereuse quand on a deux membres du couple qui sont très ambitieux. Et deuxième cas de figure, comment gérer la vie professionnelle lorsque un des deux membres du couple est beaucoup plus ambitieux que le deuxième?
Oui. Alors, je pense que c'est comme tout, c'est comme l'argent. Est-ce que je mets la communion comme critère de discernement? C'est-à-dire, si j'ai les deux soient assez ambitieux, ont des capacités, etc., comment ça va être la vie professionnelle? Et c'est, encore une fois, surtout par rapport aux enfants. Parce qu'en tant que tel, tant que le couple n'a pas d'enfants, ça a moins d'incidence. Mais dès qu'il s'agit d'aller chercher l'enfant à 18h30, dès qu'il s'agit, etc., même s'il y a une garde partagée, même si ceci, même s'il y a l'école, etc., comment... Mais, vraiment, je pense que, le télétravail a fait ou va faire bouger les choses, et singulièrement pour les femmes, hein, de façon à pouvoir participer de façon plus activement à la vie professionnelle, tout en étant, parce qu'on voit vie perso versus être bon parent ou mauvais parent. C'est-à-dire, je serais un mauvais parent si je donnerais trop d'importance à la vie, à la vie professionnelle, par exemple. Et je pense que dans certains cas, le télétravail va pouvoir aider. Maintenant, aussi de se dire que temporairement, il y a parfois des sacrifices à faire pour l'un ou pour l'autre. Temporairement, est-ce que je suis capable, s'il y a une opportunité qui s'offre, à peut-être mettre ma vie professionnelle en deuxième plan? Je crois que c'est important, ça, c'est de se dire, dans un couple, on peut pas être dans le culte de la réalisation maximum de ses désirs. Forcément, il y a un moment donné, on va gérer une forme de frustration. J'en ai parlé dans les podcasts précédents. Il y a un moment de frustration. Voilà, ça ne correspond pas, etc. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que la communion soit le critère de discernement. Encore une fois, ça veut dire que vous vous asseyez et dire qu'est-ce qui va nous aider pour être plus en lien? Qu'est-ce qui va nous permettre d'être, que l'un ait plus de désir de vie professionnelle, plus ambitieux, ou que ce soit les deux? C'est-à-dire, peu importe les cas de figure, qu'est-ce qui va... Parce que dans les deux cas de figure, ça peut être problématique. Parce que quand il y en a un qui a moins de désir de vie professionnelle, voit et prêt à mettre sa vie professionnelle entre parenthèses, ça peut être un reproche de l'autre. En reproche de l'autre, tu me laisses porter seul la responsabilité financière du couple. Et donc, du coup, je te le reproche. Donc, ce n'est pas forcément plus facile quand il y en a un des deux qui renonce à son ambition professionnelle. Ce n'est pas forcément plus facile, hein, parce que ça veut dire que l'autre prend la responsabilité. Et donc, ça veut dire aussi comment est-ce que je gère mon angoisse, mon anxiété, etc. Comment je gère... Et quand c'est les deux, ça peut être aussi compliqué parce qu'il y a des choses à gérer, hein, en même temps, parfois. Bon. Mais soyez attentifs, je veux dire, que la communion soit... le critère, à mon avis, de décision. Et ensuite, n'hésitez pas à demander conseil. Je trouve que les jeunes couples, singulièrement, restent trop seuls. Vous restez trop seuls. comme trop seul, c'est-à-dire trop. Autant il y a la préparation au mariage, vous êtes porté, vous êtes coucouné, etc., etc. Bam, le mariage. Et ensuite, bon, au mieux, il peut y avoir dans la paroisse un groupe de jeunes foyers, ça peut arriver, mais ce n'est pas dans toutes les paroisses. Même dans les métropoles, il y a beaucoup de paroisses qui n'ont pas de groupe. Du coup, il n'y a pas de lieu où on peut... Donc, je dis, c'est important de pouvoir... ça fait partie de la dimension de conseil aussi que peut avoir l'Église, d'aller voir peut-être la personne qui vous a préparé au mariage ou une tierce personne, c'est-à-dire... Vous voyez les choses qui vous invitent, parce que souvent, quand il y a des tensions, c'est qu'on n'a qu'une manière monolithique de voir les choses. Ou alors, c'est ou, c'est 0 ou 1. Or, ce n'est pas la réalité. La réalité, ce n'est pas forcément 0 ou 1. Ou alors, en termes de temporalité, ce n'est pas forcément en même temps. Et donc, du coup, il y a des tas de critères qui peuvent bouger. Donc, ne restez pas seul face à des questions comme ça.
Comment gérer les belles familles et les amitiés au quotidien pour éviter de créer des frustrations?
Comment gérer les belles familles, hein? Les belles familles, c'est tout un... Déjà, je trouve que c'est très intéressant dans la préparation au mariage de voir comment se prépare le comment se vit le mariage. C'est-à-dire comment... et la préparation matérielle du mariage. Parce que dans la préparation matérielle du mariage, il y a quelque chose aussi du mariage et de la gestion du rapport aux belles familles qui se dit. Il y a quelque chose aussi de l'argent qui se dit. Parce que ça peut paraître une évidence et c'est parfois difficile. La première fois où les familles se rencontrent, grosso modo, bon, ça salue, etc. Puis deuxième truc, on va parler d'argent. Très rapidement, on met l'argent sur la table. Et donc, s'il y en a un qui est fils unique et si l'autre a une fratrie de 7, c'est pas du tout pareil en termes de budget. Ça, c'est une évidence. Ben voilà. Donc, cette question-là de l'argent, par exemple, donc c'est à l'intérieur même de la préparation au mariage. Et donc, vous voyez aussi, je vous l'ai dit, c'est que le mariage, c'est la famille continuée. Donc, c'est la famille, c'est la transmission des gènes, c'est la transmission du patrimoine, c'est la transmission de valeurs, c'est la transmission de la foi, etc. Et donc, du coup, il y a, d'une certaine manière, chaque famille attend du mariage, qu'elle le dise ou pas, de façon inconsciente, mais quelque part, de valider sa propre éducation. Donc, quand vous, par rapport à votre belle famille, c'est quelque part pas si différent de votre propre famille, vos parents, c'est ce qu'on appelle les loyautés, que répondre aux attentes des parents, hein, rendre à ceux qui nous ont aimés, hein, en répondant à leurs attentes. Mais ce qui parfois est une difficulté, c'est ce qu'on appelle les conflits de loyauté. C'est-à-dire que ma famille demande quelque chose, et puis ta famille demande quelque chose. En termes de temporalité, typiquement les vacances, répartition des vacances, et surtout quand il y a des enfants. C'est tout à fait différent quand il n'y a pas d'enfants. Parce que quand il n'y a pas d'enfants, vous restez en mode jeune pro. Il y a beaucoup moins... Il y a des attentes de vos familles, bien sûr, et vous pouvez... Et soyez attentifs aussi, vous qui avez une petite fille, etc., de voir dans vos frères et sœurs, quand on met l'agenda familial sur la table et on répartit, par exemple, les vacances, d'abord, on va demander au couple avec enfants, ensuite au couple sans enfants, après au célibataire. Et donc, du coup, cette question de gestion de la temporalité aussi, ça dépend beaucoup. S'il y a des enfants, évidemment, il y a une attente des belles familles qui est tout à fait différente, ou de sa propre famille, que s'il n'y avait pas d'enfants. Donc, maintenant, voilà la question de la loyauté, de gérer parfois des conflits de loyauté. Il y a des loyautés qu'on appelle toxiques, c'est-à-dire des personnes que l'on ne peut jamais satisfaire. On vous offre une cravate rouge et verte, et votre famille deux cravates, vous mettez la rouge, mais pourquoi tu mets pas la verte? Je mettais la verte, pourquoi pas la rouge? C'est double bind, c'est-à-dire vraiment c'est en ciseaux, c'est on ne peut jamais contenter l'autre, hein, une injonction paradoxale, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que depuis l'enfance que ça se vit et c'est très destructeur. Donc il y a des familles desquelles aussi et il faut pas les exclure, il faut s'éloigner parce que c'est compliqué, parce que leur mode de fonctionnement, vous sentez que leur mode de fonctionnement, j'accompagne un couple où sa famille, elle le reconnaît, son mode de sa maman en particulier. C'est trop, il y a trop d'intrusions. Je me rappelle d'un autre couple, je vais préparer au mariage. La maman de lui dit, je ne donnerai jamais un prénom à mes enfants que ma mère n'ait validé. Donc du coup, vous êtes la femme de cet homme-là. Ou alors, je me souviens comme ça d'un couple qui était en paroisse. Donc, ce n'est pas forcément ce style de couple que j'accompagne, etc. Lui fait des très brillantes études, mais d'origine vietnamienne, elle d'origine portugaise. Et la maman seule a éduqué ses trois enfants à la force du poignet, en travaillant, en se levant tôt, en faisant des nems, etc. Vraiment la méritocratie républicaine, j'allais dire. Elle, une famille plutôt aisée, etc. Et du coup, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a entre ta mère et ta femme, il y a un désaccord? Et lui me répond, puisse ce jour ne jamais arriver. Donc, c'est-à-dire, la réponse, elle est donnée. Donc, parce que parfois, l'attachement à la famille est tellement viscéral et qu'il y aurait l'impression de trahir la loyauté. Que c'est, donc, voilà. Mais ça, je trouve qu'on peut le voir déjà en amont du mariage. Pour ça, je suis à la question du discernement. Et dans la préparation au mariage, tous ces aspects-là peuvent très bien ressurgir.
Oui. Et je me souviens qu'une fois, vous aviez évoqué la question des clés. Est-ce que mes parents ont les clés de chez moi? Est-ce que je garde les clés de chez mes parents?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous aider?
Oui, alors je fais un petit test quand je donne cet enseignement sur les loyautés. Je veux dire, qui a les clés de l'appartement de ses parents? Qui a des parents qui ont les clés de votre appartement? Et puis j'avais dit, qui a les codes bancaires du compte de ses parents? Qui a des parents qui ont les codes bancaires de vos comptes à vous, par exemple? Et puis je pense que c'était à peu près les quelques exemples que j'avais donnés, voilà, qui aussi aide à vivre ses parents, par exemple, et qui a des parents aussi qui continuent de les aider à vivre. Donc ça peut être aussi le cas. En cas de chômage, en cas du coup, il y a une solidarité familiale, etc. Donc c'est encore une des questions d'argent. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment le lien avec les belles familles, avec des cas très concrets comme ceci, qu'il y ait un lien. C'est pas le lien, c'est le lien qui m'enferme qui est un problème. C'est ça la difficulté, que le contact avec la belle famille ou ma propre famille, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ce soit quelque chose d'enfermant, ce soit quelque chose qui m'empêche de développer d'autres relations, oui, et du coup de m'enfermer dans une forme d'exclusivité. Ma famille ou ta famille veut une relation exclusive, et singulièrement quand arrivent les enfants. Ça se joue très très fort, quoi.
Une dernière question sur cette question du quotidien. C'est le quotidien, en fait, c'est surtout une longue liste de choses à faire, plus ou moins amusantes. La cuisine deux fois par jour, les courses, le ménage, le rangement. Comment faire pour que toutes ces tâches deviennent autre chose qu'un long épuisement et qu'on puisse se construire en couple avec ces tâches?
Parfois, il y a une dimension parfois de pénibilité, hein, dans le ménage, dans les causes. Mais je me dis, là aussi, dans la manière de voir votre agenda de couple, est-ce que ce n'est pas des choses qu'on peut faire ensemble? Est-ce que ce n'est pas des choses que l'on peut mettre ensemble sur l'agenda? On dit, ben voilà, on se fait un agenda de famille ou de couple sur la semaine, qui fait quoi? Il y a ceci, il y a cela. Bien souvent, c'est le manque de communication et surtout le manque de reconnaissance, parce que c'est aussi ça, il faut le dire souvent, c'est sur les épaules de la jeune femme que reposent beaucoup de choses, pas exclusivement, mais c'est souvent le cas, et ce manque de reconnaissance, j'avais une jeune femme au téléphone encore hier, qui me dit, moi je fais tout à la maison, mais je n'ai jamais un merci. Voilà, elle dit, je fais ça volontiers, c'est pour notre couple, notre famille, etc. Donc je pense que c'est ces questions-là de manque de... Mais j'allais dire encore une fois... Si vous mettez la communion au centre des choses, je ne veux pas dire que tout est réglé, mais de dire mais le ménage, pourquoi ce ne serait pas un temps aussi de communication? Pourquoi ce ne serait pas un temps, la cuisine? Pourquoi on a parlé de se passer du jeu au nous. Pourquoi se voir seul, se penser seul? C'est ça la question. Pourquoi se penser seul dans des questions qui sont matériellement plus ou moins intéressantes? Mais pourquoi, pourquoi ça ne va pas être un lieu aussi de rencontre avec, avec l'autre et de faire des choses ensemble rapproche aussi des choses de base.
Comment est-ce qu'on gère les groupes d'amis au sein d'un couple?
Alors, cette question-là, elle me paraît vraiment intéressante. Parce que le fait d'être en couple veut dire redimensionner les amitiés. Et redimensionner, c'est-à-dire que pendant que vous étiez célibataire, bien souvent, l'amitié avec les amis avait une place prépondérante, voire principale, etc. Même sur votre famille, ben, pour vous, c'était ça qui était important. Comment ces amis, dans ces amitiés-là, il y a aussi des loyautés amicales. On a parlé des loyautés familiales, mais il y a des loyautés aussi amicales. Redimensionner, c'est-à-dire là aussi, c'est, je trouve que parfois il y en a qui restent trop avec, mais c'est plus souvent des hommes, mais avec leur bande de copains, etc., avec leur rituel. Moi, je me méfie aussi beaucoup des rituels amicaux, comme il y a des rituels familiaux, il y a des, etc. Ces rituels amicaux qui fait que qui ne changent pas alors que votre état de vie, lui, a changé. Donc, il y a forcément dans vos amitiés des choses qui vont changer. Dans le temps que vous allez accorder aux amis, et singulièrement dans la préparation au mariage, c'est votre couple qui a la priorité au niveau du temps. Et quand vous dites ça, vous n'êtes pas égoïste. Et du coup, de dire à vos amis, écoutez, on va se voir moins, parce qu'on veut construire notre couple. Mais ce n'est pas parce qu'on vous aime moins, c'est juste qu'on a besoin du temps pour nous. Et le fait, rien que le fait de dire ça, je trouve que ça, ça permet de mettre chacun à sa place.